c'est l'afterwork.
Attitude au cœur du FIBD 2022 et nous sommes avec Marc Dubuisson, bonjour.
Bonjour.
Marc Dubuisson, vous êtes né à Bruxelles et résidez en Belgique. Dans votre parcours, on trouve des études de professorat et d'infographie. Et si j'en crois les quelques informations trouvées ça et là sur la toile, vous avez même fait un passage au ministère de l'Intérieur. Mais vous êtes surtout connu pour être dessinateur de presse. On voit régulièrement passer vos strips sur les réseaux sociaux, notamment via le site du journal 7 sur 7 avec qui vous avez travaillé pendant 4 ans. Vous travaillez également avec le journal Les Échos, également les Alternatives économiques et la revue Topo. Et plus ponctuellement avec le Secours Populaire, Greenpeace ou encore La Poste. Vous adoptez un style épuré qui d'après vous serait dû au fait que vous ne savez, d'après vous toujours, pas trop dessiner, ou du moins comme un pied, et c'est d'ailleurs un pseudonyme que vous avez choisi et qui permet de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Alors première question, comment passe-t-on d'apprenti professeur à artiste de bande dessinée ?
En fait, j'ai toujours aimé l'écriture. C'était quand vous dites apprenti professeur, c'était pour faire professeur de français. Donc il y a quand même un lien entre l'écriture et le professorat. Mais j'étais pas du tout pédagogue, donc je me suis dit je vais essayer de trouver autre chose. Et voilà, l'écriture, c'est toujours l'écriture qui m'a motivé. Et je suis arrivé à la BD un peu par hasard à l'époque des blogs BD en fait. Oui. Où je me suis rendu compte que c'était une façon très très rapide de balancer mes petites idées comme ça sur internet très rapidement et d'avoir des retours aussi très rapides. J'avais à la base je voulais écrire pour tout ce qui était série d'animation ou programme court pour la télévision. Mais voilà, c'est des choses qui prenaient énormément de temps et je me suis dit là les blogs BD ça sera super rapide. Mais maintenant je me retrouve à faire des BD qui mettent beaucoup de temps à réaliser, donc je me suis un peu piégé tout seul. Mais c'est comme ça que j'en suis arrivé là, c'est vraiment la passerelle des blogs BD.
D'accord. Effectivement, on va en parler de la BD qui a dû prendre du temps à faire parce qu'elle fait quand même dans les 120 pages, je crois.
Oui, c'est ça.
Donc, dans vos strips, en 4 cases, on trouve plusieurs thèmes traités. Le racisme, le sexisme, les réactionnaires en général, la manipulation politique, l'écologie, l'exploitation ou encore la maltraitance animale et le Beaujolais nouveau. Vous prenez quoi comme source d'inspiration? Les médias, les réseaux sociaux, les terrasses de café, les discussions en famille?
Un peu tout ça, en fait. Je pense que les qualités d'un dessinateur de presse, c'est d'observer tout ce qui se passe autour. Bien entendu, il y a tout ce qui passe à la télé, que ce soit les débats, les JT, les documentaires, etc. Tout ce qui est réseaux sociaux aussi, ça donne un peu une idée, parfois un peu biaisée, des opinions qu'il peut y avoir dans la population. Mmh. Parce qu'on est souvent un peu toujours avec les mêmes personnes, donc on entend toujours un peu les mêmes choses. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, quand on sort un petit peu de sa petite bulle, ça permet un peu de voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant et ça fait énormément réfléchir, notamment sur des sujets de société et d'actualité qui ont différentes visions selon la personne qui le reçoit. Et c'est ça que j'aime bien, c'est arriver à choper toutes les réactions un peu absurdes par rapport à tout ce qui peut se passer, quoi. Et y compris les miennes, parce que dans tout ce que j'observe, il y a aussi mes propres comportements. Donc je ris aussi de mes propres comportements.
Oui, c'est meilleur de les confronter justement avec
oui, complètement.
Vous avez mis un certain nombre de vos strips en accès libre sur votre site internet. Ils peuvent être récupérés et publiés à loisir selon les termes de la licence Creative Commons. Vous en voyez souvent passer dans différents contextes.
Oui, mais pas forcément ceux-là. c'est le principe d'internet, hein. Vous postez quelque chose, ça vous appartient plus vraiment. Donc ça, on finit par s'y faire assez vite. Après, c'est toujours agréable de voir que nos strips sont partagés. C'est un peu moins agréable de voir que certaines personnes prennent le temps quand même d'enlever la signature.
Ah oui, ça se fait beaucoup. Oui.
Voilà, ça se fait énormément sur internet. Bon, ça fait partie du jeu. Je pense pas que c'est quelque chose auquel on pourra mettre un terme. Mais ça reste agréable de voir que les strips parlent à plein de gens, dont des gens plein de gens que je ne connais pas, à qui je n'aurais jamais parlé autrement. même si ce ne sont pas les strips que je mets à destination de tout le monde, c'est chouette qu'on les partage. Les strips que je mets à destination de tout le monde, ce sont des strips effectivement sur des sujets qui me tiennent à cœur et des sujets parfois militants, pour permettre justement aux associations un peu militantes ou alors aux professeurs par exemple de les utiliser sans aucun souci. C'est ça qui m'importe. Après, évidemment, les réutiliser pour des fins commerciales, ça c'est pas du tout le but. Mais si ça peut aider des associations militantes à faire passer leurs idées, alors ça, il n'y a vraiment aucun problème, quoi.
Oui, c'est parce que pour les utilisations commerciales, on est amené donc à vous contacter justement pour discuter de la partie contractuelle. Et en sachant que la culture internet, vous l'avez dit, mimique et basée sur le détournement d'images, est-ce que vous ne pouvez pas être une version modifiée malgré la demande de ne pas le faire?
Si, bien sûr, il y en a. On peut pas faire grand chose. Certaines fois, j'ai quand même demandé à ce qu'on retire la publication, notamment quand ça avait déjà été détourné par des hommes politiques.
Ah oui.
Donc les dessins étaient les mêmes, mais les bulles n'étaient pas les mêmes, ce qui changeait énormément. Oui. Et eux avaient laissé ma signature. Donc là, ça veut dire un peu que j'ai la responsabilité de du message que eux veulent porter. Et ça ne me plaît pas. Mais malheureusement, ça demande un temps et une énergie folle. Enfin, moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai énormément de travail et donc on peut pas toujours suivre tout ce qui se passe. Et je ne vois pas non plus toutes les utilisations des dessins. Donc malheureusement, on est obligé de lâcher du lest par moment, quoi.
Bon, Internet, l'avantage c'est qu'on peut aussi remonter à la source et se rendre compte de quels sont les originaux.
Oui, tout
pour
à
les
fait,
gens qui prennent la peine de le faire, évidemment.
Absolument.
Au-delà des dessins de presse, vous publiez régulièrement des albums chez Delcourt et les éditions Lapin. Et votre dernier ouvrage en date s'appelle Le président est une noix de coco. L'histoire prend place le soir de l'élection présidentielle et alors que le match se joue entre un candidat d'extrême droite pro-armes, climato-sceptique et une candidate libérale qui veut interdire aux gens de mourir avant la retraite pour préserver l'économie. Le vainqueur de l'élection est une noix de coco avec un nœud papillon, donc stupeur générale. Et tout le livre s'emploie à mettre en scène les différentes réactions du public, des médias, des différentes institutions et corps de métier. Les institutions d'âge en prennent aussi pour leur grade. Vous pensez qu'ils ont plutôt tendance à mesurer l'opinion ou à la fabriquer ?
Ça, c'est une question à laquelle je peux pas vraiment répondre. Je sais pas. Enfin, oui, je pense que d'une certaine manière, forcément, ça influe sur l'opinion. Je pense que c'est une espèce de spirale, en fait, ou de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'ils vont sonder une partie de la population. De là, on va publier des résultats qui vont influer sur une autre partie de la population. Enfin, c'est un jeu un peu à double sens. Et de toute façon, des sondages ne sont jamais que le reflet d'un certain panel interrogé à un certain moment. Donc, c'est toujours aussi à prendre avec des pincettes. Mais effectivement, ça peut influer sur la vie des gens et leur vote notamment.
Oui, donc au final, oui, c'est vrai que le sondage en lui-même, il peut avoir une utilisation diverse en fait. C'est juste l'importance qu'on leur donne.
Oui, c'est ça. C'est le sondage est une information. Est une information au sens. C'est une information où il faut vraiment bien saisir tout ce qu'il y a autour. Donc, comme on disait, c'est une certaine partie de la population sur à un certain moment donné. Enfin voilà. Donc, ça peut avoir son intérêt, mais effectivement, à force d'être matraqué, à force d'en faire des gros titres, c'est-à-dire qu'un sondage c'est une information, mais de là en faire un gros titre, là il y a vraiment une grosse différence. Si ça devient un gros titre, alors dans ce cas-là, ça amène une influence sur la vie des gens, je pense.
Est-ce que le fait de mettre une noix de coco en guise de président et de voir la société s'articuler autour n'est pas une manière de pointer que peu importe les personnes parfois interchangeables qui occupent la fonction, bah les institutions, les comportements restent souvent les mêmes et qu'en plus le monde peut continuer de tourner justement?
En tout cas, le monde continue de tourner, ça c'est vrai. J'avais choisi cette noix de coco pour plusieurs raisons. J'ai d'abord été inspiré par l'élection de Donald Trump. Parce que c'est un personnage vraiment particulier qu'on n'aurait jamais imaginé à la tête d'une des plus grandes puissances mondiales. Et le fait que justement le monde continue de tourner, que le pays en question continue de tourner, c'était quand même assez impressionnant quand on mesurait ça avec les différents tweets qui pouvaient poster, qui parfois partaient dans tous les sens. Oui. Et malgré tout continuait de tourner. Donc je trouvais ça intéressant. Et ce que j'aimais aussi, c'était le fait de mettre une chose inanimée, qui n'a pas de parole, mais qui malgré tout est interprétée par plein de gens. Donc c'est-à-dire que cette chose ne dit rien, mais tout le monde va en parler tout autour et va essayer de lui donner des propos, lui donner un sens politique, de dire elle est de gauche, elle est de droite. Et en fait, les gens aiment beaucoup parler, les gens aiment beaucoup débattre, et parfois sur pas grand-chose. Et c'est ça aussi le thème, en fait. C'est que on peut mettre une noix de coco inanimée à la tête du pays, il va continuer de tourner parce que malgré tout autour ça va continuer de bosser, et deuxièmement il y aura quand même encore des débats et des polémiques.
Oui, c'est que dans ce genre de situation on peut y voir différentes choses. D'un côté on peut comparer le pays à une usine où en enlevant un peu le contremaître, les ouvriers connaissent le boulot, continuent à faire tourner un peu la machine, et de l'autre côté ça pointe tout un tas de rôles et fonctions devenus inutiles, je pense notamment aux commentateurs et éditorialistes politiques qui sont repris dans votre livre, mais qui continuent à camper leur posture et garder leurs obsessions de manière un peu absurde, même si au final tout ça n'a plus de sens. Il y en a juste un moment dans le bouquin qui dit mais attendez, c'est une noix de coco, est-ce que quelqu'un va réagir, quoi.
Oui, c'est ça, en fait on a l'impression qu'on comble on comble le silence, que maintenant on supporte le silence, qu'on est toujours obligé de le combler, et que même s'il se passe rien, on est obligé d'en parler. Il suffit de voir les télévisions, les chaînes de télé d'infos en continu. Parfois, il se passe pas grand-chose, mais on fait quand même des duplex, on en parle, on fait des débats, et c'est complètement fou. Et le fait aussi que je sois originaire de Belgique, je pense qu'il y a aussi une inspiration, parce que on est quand même abonné à des périodes sans gouvernement.
Oui.
On a un gouvernement, mais c'est un gouvernement d'attente, en attendant qu'un nouveau se forme. Ça arrive régulièrement après les élections. Et malgré tout, tout tourne. Le pays continue de tourner. Donc finalement, on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça autour ? Alors oui, on en a besoin, mais est-ce qu'il faudrait pas un peu quand même modifier les choses et essayer de les rendre moins usine à gaz ?
Alors Marc, si je peux me permettre, donc vous êtes un peu un couteau suisse pour moi, parce que je vois que vous êtes scénariste, illustrateur, coloriste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes passionnés qui arborent le festival. Si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à leur donner, s'ils veulent commencer dans la bande dessinée, ça serait quoi ?
Ouais,
c'est vaste.
Compliqué, c'est très vaste, parce que je pense que comme beaucoup d'auteurs, j'ai pas l'impression d'être une personne qui peut donner, enfin j'ai pas l'impression d'avoir la légitimité pour donner des conseils. Moi, ce que je peux juste parler de mon exemple personnel.
Ah, votre expérience.
Mon expérience, c'est que j'avais envie d'écrire, j'avais envie de faire des petits strips, de sortir mes vannes sur internet. Je l'ai fait. Je suis allé au bout du truc, même si, enfin, au début c'était vraiment à l'arrache, c'était vraiment du bricolage, mais je l'ai fait, j'ai fait évoluer mon dessin. Je fais toujours des bons hommes bâtons, mais je suis devenu un expert en bons hommes bâtons. À force de poster des choses, on commence à se faire connaître, on commence à rencontrer aussi d'autres auteurs et autrices. On peut échanger avec ces personnes. On apprend forcément, chaque dessin qu'on fait, on apprend quelque chose. Donc déjà, dessiner très régulièrement, ça c'est la base. Faire évoluer son dessin, faire ce qu'on a envie de faire à la base, ne pas vouloir à tout prix faire quelque chose qui plaît. Ça j'ai déjà essayé de faire, et au final c'est pas ce qui a marché le mieux. Et aussi toujours se dire que si quelqu'un s'intéresse à votre travail, c'est que il mérite un juste retour, c'est-à-dire ne pas signer pour n'importe quoi, pour n'importe quel prix, chez n'importe qui, en fait. Il faut toujours se dire voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est un travail, et ça mérite un salaire normal. Et c'est pas juste pour de la visibilité ou pour la pub que je vais faire des dessins et que finalement je vais donner de mon temps et de ma personne pour ne rien recevoir, parce que la visibilité c'est sympa, mais voilà, moi je me la suis donnée tout seul en allant sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un de l'extérieur qui vend des trucs vous dise tiens, je vais vendre mes trucs grâce à tes dessins, mais tu seras payé en visibilité. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment aller sur les réseaux sociaux, en profiter, parce que c'est vraiment une vitrine incroyable, et poster assez régulièrement, Parce que malheureusement, on est vite oublié aussi. Et puis après, évidemment, démarcher les éditeurs. Après, ça dépend des projets. Mais c'est la base. La première chose à faire, c'est de se faire connaître et faire connaître son travail. Et les réseaux sociaux, c'est parfait pour ça.
Et quand je vous écoute, du coup, ça me fait penser à quelque chose. Vous avez été toujours libre dans vos créations. Si j'écoute bien un peu ce que vous dites, ça vous a permis finalement le fait de faire tout vous-même et de poster par vous-même et de créer. Vous avez été libre et vous n'avez jamais subi une pression sur tel ou tel dessin ou tel sujet.
Bah après, ça reste Internet, hein, donc quand vous faites des dessins d'actualité ou sur des thèmes de société un peu touchy, un peu polémique, forcément vous aurez toujours des gens qui viendront dire qui n'aiment pas ou qui sont pas d'accord ou des choses comme ça. Il faut arriver à prendre un certain recul. J'ai pas eu d'autocensure. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai travaillé sur mon humour. J'ai essayé de ne pas aller dans la facilité. Souvent, la facilité, en fait, déjà n'est pas très intéressante parce que en général, c'est de la redite de ce qui a déjà été fait et ce qui a déjà été dit. Et puis, vous pouvez facilement aussi blesser des gens. Mm-hmm. Parce que la facilité, c'est taper sur les minorités et c'est toujours, il y a toujours des gens qui souffrent derrière. Et le but, vraiment, c'est de faire évoluer mon humour pour que ça soit toujours drôle, mais jamais méchant gratuitement sur quelqu'un. Ou alors, ça peut être sur des politiques, mais les politiques, ils ont un certain pouvoir, ils ont enfin une certaine notoriété, ils peuvent très bien supporter les critiques, et ça fait partie du jeu, mais ne pas taper sur les plus faibles. Ça, c'est ce que j'essaye de faire. Après, c'est pour mes valeurs personnelles, mais personne ne m'a obligé à faire ça, et je reste libre dans mes dessins.
Au final, vous avez pu prendre un contre-pied, justement, de ce type d'humour qu'on dit oppressif, mais tout en gardant, on va dire, le côté punchy, quoi, le côté violent, mais en le retournant contre les puissants, en plus.
Alors, oui, il y a de ça, et en fait, on va chercher un côté de un aspect de son humour qu'on ne serait pas allé chercher autrement. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et hyper enrichissant, parce que ça permet de pas s'endormir sur ce qu'on sait faire, en fait. Mmh. Et du coup, pendant des années, refaire la même chose, ce qui n'a vraiment pas d'intérêt. Donc c'est vraiment intéressant d'aller essayer de chercher autre chose, de voir qu'est-ce qui peut faire rire, qu'est-ce qui peut faire rire de façon universelle aussi, essayer de faire rire le plus grand monde, c'est pas toujours facile. Mmh. Mais c'est challengeant, c'est vraiment challengeant.
Et on en parlait en début d'interview, l'album contient quand même 116 pages d'histoire, vraiment 116 pages d'histoire pleine. Ça vous a pris combien de temps à réaliser ?
Si j'ai réfléchi, je pense que ça m'a pris un petit peu moins d'un an. Mais évidemment, enfin, je pense que quand on voit mon dessin, on sait que c'est pas ce qui me prend forcément le plus de temps. Ce qui me prend le plus de temps, c'est vraiment l'écriture. Je voulais pas faire des blagues pour faire des blagues. Parce que si quelqu'un me commande un gag maintenant pour dans une heure, je vais pouvoir vous en pondre un, mais il sera pas exceptionnel, quoi. Mmh. Mais il y aura une petite chute, un petit truc drôle. Ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose qui amène une chute, mais aussi un peu de réflexion, qui ait des répliques qui sonnent justes, qui ait des références intéressantes. Et c'est ça qui prend le plus de temps, en fait. Et il y a tout le travail d'observation, comme on disait tout à l'heure, de la société en général, surtout pour ce livre qui est vraiment une observation de la société.
Et pour la partie strictement en dessin, vous utilisez quelle technique ?
Je fais tout en numérique avec une tablette graphique. En fait, c'est très rapide. Moi, je dessine un peu par défaut. C'était pas ma passion à la base. J'aimais bien la BD, mais comme je disais, j'aime beaucoup écrire. Et j'ai eu plein de livres que j'ai dessinés moi-même, mais que j'avais écrits dans le but de les faire dessiner par quelqu'un d'autre.
D'accord.
Celui-ci, très vite, je me suis dit que j'allais le dessiner moi-même, mais c'est vraiment, c'était pas une passion à la base. Et parfois, c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que quand j'ai vraiment beaucoup de travail de commandes, etc., dessiner, c'est pas ce qui m'amuse le plus. C'est vraiment essayer de d'écrire les histoires. Et donc pour le dessin, je fais ça en numérique, comme ça c'est beaucoup plus rapide.
D'accord. Au niveau des projets en cours et des projets futurs, il y a des choses dont vous aimeriez nous parler ?
Alors, dans les projets futurs, là, je travaille en tant que scénariste sur une nouvelle BD qui va sortir aux alentours de septembre, du mois de septembre.
Oui.
Qui sortira aux éditions Glénat et qui s'appelle Anna et l'Entremonde. Mmh. Et là, c'est vraiment quelque chose de hyper différent de ce que je fais habituellement. Je travaille avec la dessinatrice Si, qui avait signé Radium Girls chez Glénat, qui a fait des dessins somptueux. Et c'est vraiment une histoire d'aventure jeunesse qui se passe dans un univers un peu fantastique. Mmh. Et j'ai vraiment hâte que ça sorte.
Ça marche. Et si on souhaite vous rencontrer en dédicace donc sur cette édition 2022 du Festival de la BD, on peut vous retrouver jusqu'à 19h sur quel stand aujourd'hui ?
Sur le stand de Delcourt.
Delcourt.
Et puis stand de Delcourt aussi demain de 10h à 12h. Puis je serai aussi chez BD Kids. Je pense que c'est de 14h30 à 16h30. Mais je suis pas sûr des horaires, donc il faudra vérifier sur le site.
Voilà, n'hésitez pas à vérifier donc sur le site du Festival de la bande dessinée 2022.